La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Dans les prochaines décennies, des ruptures technologiques et scientifiques sans précédent vont sans doute rendre possible une transformation radicale de l'humain. Implants cérébraux, organes de rechange, hybridation homme-machine, bébé à la carte, techniques d'amélioration cognitive ou régénération des corps, les annonces donnent le tournis. Les adeptes du courant de pensée transhumaniste y voient les promesses d'un monde meilleur dans lequel nous vivrons plus heureux, plus longtemps et en bonne santé. D'autres s'inquiètent et dénoncent cette idéologie technoscientiste qui fait peser sur notre espèce et notre société des risques majeurs. Alors le transhumanisme nous promet-il le pire ou le meilleur? Et ses promesses sont-elles réalistes ou relèvent-elles du pur fantasme? Nos deux invités, Jacques Testard et Marc Roux, n'ont pas du tout le même avis sur ces questions. Nous les avons invités à en débattre. Pour réagir ou participer à notre discussion, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, les manchots peut-être bientôt contraints à l'exil par le changement climatique.
Oui, les manchots royaux ont les pensées relativement à l'abri du réchauffement climatique sur leur île subantarctique. Mais malheureusement, les poissons s'en vont et il va falloir les suivre pour survivre. On en discute avec Robin Christofari du CNRS.
Et en fin d'émission, comme tous les jeudis, nous retrouverons le docteur Dominique Dupagne pour sa chronique Santé polémique. Il s'intéressera aujourd'hui à nos capacités de résistance au virus de la grippe. Voilà pour le sommaire de cette tête au carré, réalisée par Céline Hila et préparée par Chantal Lemontagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Autour de la table, Jacques Testard et Marc Roux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous avez écrit l'un et l'autre un livre sur le transhumanisme et rien qu'en en lisant les titres, on comprend que vous n'êtes pas franchement d'accord. Jacques Testard, vous êtes biologiste. Votre livre qui paraît aujourd'hui aux éditions du Seuil s'intitule « Au péril de l'humain, les promesses suicidaires du transhumanisme ». Marc Roux, vous êtes historien de formation. Votre livre a pour titre « Technoprog, le transhumanisme au service du progrès social », paru chez FIP Éditions. Marc Roux, si vous deviez définir en une phrase ce qu'est le transhumanisme, qu'est-ce que c'est ?
Pour moi, c'est simplement l'effet d'une prise de conscience. Le fait que nous savons depuis peu que nous pouvons intervenir volontairement par la technique sur notre évolution biologique.
Ouais, c'est relativement soft hein, comme définition. Est-ce que, au moins là-dessus, vous êtes d'accord, Jacques Testard ?
Oui, enfin, il manque beaucoup d'éléments. Moi, je dirais que le transhumanisme, c'est plutôt l'alliance d'une pulsion infantile, deux pulsions infantiles et archaïques, avec les possibilités considérables que donne aujourd'hui la technoscience.
Cette idée que l'on va pouvoir transformer l'humain grâce à la science et à la technologie, vous y voyez, vous, Marc Roux, des promesses incroyables pour le bien de l'humanité?
Promesse, je ne sais pas, c'est pas le mot que j'utiliserai. Espoir, je préférerais. Je évite de croire. Je pense à ce qui est véritablement réalisable. Oui, il y a tout un ensemble de choses réalisables.
Et pour vous, l'humanité court à sa perte si on suit l'idéologie humaniste.
L'humanité, ça ne veut pas dire forcément l'homo sapiens en tant qu'espèce, avec ce qui le caractérise biologiquement. Mais l'humanité, ça veut dire la façon de vivre aussi. Ça veut dire l'humanisme, ça veut dire la vie en société. Voilà. Oui, ça, je pense que ça a déjà pris un bon coup. Hein.
Le transhumanisme, critique, crainte et promesse. On ouvre le débat cet après-midi dans La Tête au Carré. Et pour nous donner votre avis ou adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Le futur exode des manchots royaux à la une de la science, menacé de bien des manières par le réchauffement climatique, les manchots royaux des îles subantarctiques souffrent surtout de la raréfaction des poissons à proximité de leur site de nidification. Une étude franco-italienne parue cette semaine prévoit un exil massif et certainement dévastateur des populations vers le sud pour suivre leur source de nourriture. Une étude originale, Axel Villard, à mi-chemin entre génétique des populations et modélisation climatique dont nous discutons avec l'un des auteurs.
Oui, Daniel, nous sommes en direct depuis Turku, en Finlande, avec Robin Christofari. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste pour le CNRS à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien et vous êtes également premier auteur de cette étude. Alors, pour bien les situer, les manchots royaux, ce sont ceux avec le cou et l'arrière de la tête jaune et on ne les trouve pas du tout en Finlande, on est d'accord ?
Exactement. Alors, ils en avaient ramené en Norvège à une époque, mais ils sont tous morts très vite. C'était une mauvaise idée des années 30, mais non, plus du tout.
Alors, quelles sont les zones du globe où on les trouve encore aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, c'est bizarrement surtout en France, mais pas en métropole, donc dans les terres australes et antarctiques françaises, donc c'est les îles Kerguelen, les îles Crozet, qui sont dans l'hémisphère sud, donc disposées autour de l'Antarctique. Voilà, on oublie toujours que la France a la plus grande population de manchots du monde, bizarrement.
Oui. Voilà. Et l'impact du réchauffement climatique sur ces zones se fait déjà sentir sur le terrain ? On voit des modifications ?
Alors, on voit des modifications extrêmement fortes en Antarctique même. Ça a été une rupture brutale il y a peut-être 3 ou 4 ans. Il a commencé à pleuvoir en Antarctique. Dans les îles subantarctiques où les manchots royaux vivent, c'est plus subtil. On a des journées d'été, des fois à 30 degrés où les manchots allaitent. Là, on voit vraiment qu'il y a un problème. Mais c'est vrai que ça se passe de façon subtile, plutôt dans la température de surface de l'eau. C'est des choses de 1 ou 2 degrés qu'on a du mal à percevoir, mais qui sont dévastatrices quand même en réalité.
Pourquoi vous dites dévastatrice ? Qu'est-ce qui se passe pour les manchots exactement ?
Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que si la température de l'eau s'élève de 1 ou 2 degrés, ça veut dire qu'en fait, la position des masses d'eau en fait dans l'océan peut se déplacer de plusieurs centaines de kilomètres. Ça veut dire qu'en fait, les zones où se trouvent en fait la plupart des poissons, qui sont vraiment une frontière très très subtile entre les eaux antarctiques qui sont très froides, à moins 1 degré, moins 2 degrés, et les eaux subantarctiques qui sont plus à 5 ou 6 degrés, quand on élève la température, donc c'est un gradient de quelques degrés, hein, si on élève toute cette température d'un ou deux degrés, les zones où se trouve le poisson se déplacent de plusieurs centaines de kilomètres vers le sud. Donc évidemment, nos manchots qui sont fixés à leurs îles de reproduction meurent de faim.
Et donc ils vont devoir eux-mêmes s'exiler plus vers le sud. Ils ont des destinations, vous avez trouvé des endroits où ils pourraient aller dans le futur ?
Alors ce qu'on prévoit un petit peu, les études qui ont été faites récemment, en particulier par Charles-André Bost, montrait qu'en gros, si un manchot doit nager plus de 700 km, ce qui est déjà beaucoup, aller-retour, donc 1400 km en tout, pour trouver à manger, son poussin meurt de faim pendant ce temps. En gros, le poussin n'a pas une capacité de jeûne pour attendre que ses parents lui ramènent du poisson. Si les zones d'alimentation sont plus loin que ça, il faut que le manchot se déplace. Il faut qu'il trouve une île plus proche des zones d'alimentation. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'îles. Donc on en identifie peut-être 2 ou 3, donc l'île de Bouvet qui est norvégienne en ce moment, l'île des Shetland du Sud, où malheureusement pour les gérer c'est très difficile parce que c'est encore disputé entre le Royaume-Uni et l'Argentine depuis la guerre des Malouines, donc c'est des îles difficiles à gérer, et c'est un petit peu les seuls refuges qu'on envisage en réalité.
Donc les manchots quitteraient le sol français, hein, c'est ce que vous nous dites, vous nous disiez la France a la plus grande population de manchots, ça pourrait changer avec cette histoire.
Exactement, nos manchots risquent de sortir, hein, ou britanniques ou norvégiens. Enfin, j'espère surtout qu'on s'en occupera bien là-bas, parce que le problème qui se pose, c'est que, comme ils n'y sont pas encore, il n'y a pas de mesure de protection efficace mise en place sur ces futurs refuges. En particulier, il y a beaucoup de pêcheries, il y a beaucoup de surpêche autour de ces futurs endroits critiques. Ce qu'on montre vraiment dans cette étude, c'est qu'il faut prévoir en fait ce qui va être des zones critiques. Il faut qu'on prévoie déjà nos stratégies de conservation pour que les futures zones essentielles soient déjà protégées, qu'elles soient prêtes à accueillir en fait c'est les quelques réfugiés qui arriveront à les atteindre.
Alors, ce qui est original dans votre travail, c'est que pour arriver à cette conclusion, vous avez travaillé sur la génétique de ces manchots. Comment est-ce que vous avez pu lire leur avenir dans leur ADN ?
Alors oui, c'est des choses assez... alors déjà, il y a beaucoup de maths derrière, c'est pas des choses simples à expliquer, mais en gros, de façon simple... On se sert du génome pour comprendre l'histoire passée de ces manchots. Ce qui est très difficile pour prédire l'avenir, c'est qu'on connaît le manchot depuis... c'est un animal qui a été découvert il y a moins de 200 ans, donc on sait très peu de choses sur les manchots. Et en fait, l'intérêt, c'est que dans son génome, on peut retrouver son histoire sur les derniers 50 000 ans. Ça, tout de suite, ça nous permet de relier ça aux données climatiques qu'on connaît, avec les carottes de glace en Antarctique, par exemple. On peut comprendre la relation des manchots et du climat sur 50 000 ans et plus seulement sur 50 ou 60 ans. Donc d'un coup, on est capable de construire des modèles beaucoup plus précis sur la réaction des manchots au changement climatique. Parce qu'on sait que le climat a déjà beaucoup changé depuis les derniers 50 000 ans. Et ça nous permet en fait d'établir des projections beaucoup plus fiables que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent.
Et concrètement, ça veut dire que vous voyez qu'il a survécu à des migrations, c'est ça que vous voyez dans l'ADN ?
Alors voilà, ce qu'on a pu montrer un petit peu dans cette étude, c'est qu'en réalité, le manchot royal était déjà passé par au moins deux crises majeures pendant les derniers 50 000 ans. À première vue, on pourrait se dire, il a déjà survécu à des crises, il s'en sortira bien. Le problème, c'est que ces crises qui ressemblent à des crises sur le registre fossile, en fait, se sont passées sur des centaines d'années, peut-être 800 ans, 1000 ans, 1500 ans. Donc c'est des choses très très graduelles par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui, qui est d'une extrême violence. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un chercheur, entre sa première mission en Antarctique et sa dernière, a vu le climat changer. Mmh. Ce qui n'a pas du tout été le cas par le passé, évidemment.
Allez, une toute dernière question, Axel.
Oui, une petite dernière question. Il y a un an, on le pensait presque condamné. Là, vous dites qu'il va peut-être migrer. Au final, votre étude, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ?
Pour tous les gens qui travaillent sur le climat, déjà, ce n'est pas vraiment une nouvelle. On s'attend à ce que ces espèces soient en difficulté. Concrètement, à grande échelle, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que là, maintenant, on est certain qu'à l'échelle planétaire, c'est une bestiole qui est en difficulté. Et c'est un animal qui a un rôle énorme dans l'écosystème de l'hémisphère sud. Donc si le manchot royal disparaît, concrètement, l'écosystème entier s'effondre. C'est une nouvelle très sérieuse. Il faut pas du tout laisser passer ça comme une anecdote. On ne parle pas du panda, par exemple, d'un animal emblématique, mais finalement avec assez peu d'importance écologique. Le manchot, c'est une espèce qui structure son environnement. On perd le manchot, on perd le poisson.
Merci Robin Christofari de nous avoir parlé de cette découverte qui est loin d'être une anecdote. Et Axel, à bientôt.
À bientôt, à demain. Non, pas à demain.
À bientôt, à lundi. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un observatoire de radioastronomie australien pense avoir détecté des signaux caractéristiques des toutes premières étoiles de l'univers. Des signaux émis il y a 13,6 milliards d'années, soit seulement 180 millions d'années après le Big Bang. Cela fait près de 10 ans que les chercheurs s'affairent pour saisir ce signal, dont l'observation doit encore être confirmée. Selon Brian Schmidt, prix Nobel de physique en 2011, cette découverte pourrait bouleverser les modèles de la naissance de l'univers. En effet, l'étude suggère qu'il s'est refroidi plus vite qu'on ne le pensait après le Big Bang, ce qui pourrait conduire à revoir les modèles cosmologiques et peut-être permettre de mieux comprendre la mystérieuse matière noire. Une équipe de scientifiques dirigée par Bernard Lascola de l'université d'Aix-Marseille a très récemment découvert deux nouvelles espèces de virus géants. Après le mimivirus découvert en 1992 et le pandoravirus en 2013, ce sont aujourd'hui les toupanvirus qui intriguent les chercheurs. Alors que la plupart des virus communs ont besoin d'infecter une cellule pour produire leurs protéines, les toupanvirus sont parfaitement capables de le faire seuls. En revanche, comme tous les virus, ils ont besoin d'infecter une cellule pour se reproduire. Ajouté à leur marginalité, 30% de leurs gènes sont encore inconnus dans la nature, que ce soit chez les virus ou même chez les bactéries. Et les oursins mettent 5 ans à faire leur trou. Appelé le hérisson de mer ou encore la lanterne d'Aristote, l'oursin ne cesse de fasciner les scientifiques, que ce soit pour son squelette articulé ou son appareil digestif. Michael Russell, biologiste à l'université de Villanova aux États-Unis, s'est intéressé à l'habitat de ce petit animal qui révèle une intensité d'activité inattendue. Tout juste sorti de son état larvaire, il se fixe à une paroi, souvent une cavité, et actionne ses dents pour mâcher et gratter la roche. L'oursin creuse ainsi petit à petit un trou complet à raison de 32 grammes de calcaire évacué par an, un véritable athlète de la bioérosion. Transhumanisme, critique, crainte et promesse, c'est le thème du dossier de la tête au carré dans un instant.
On dit qu'au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers le sein va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Manhattan est belle, entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Deux amours, Madeleine Pérou.
La tête au carré sur France Inter.
Les transhumanistes nous promettent-ils le pire ou le meilleur ? On en débat aujourd'hui dans La tête au carré avec Jacques Testard, biologiste et père scientifique du premier bébé éprouvette. Il publie aux éditions du Seuil « Au péril de l'humain, les promesses suicidaires du transhumanisme ». Marc Roux, historien de formation, président de l'association française transhumaniste. Il est le co-auteur du livre « Technoprog, le transhumanisme au service du progrès social » chez FIP Éditions. Vous partez l'un et l'autre du même point de départ. Vous êtes d'accord sur le fait que les technosciences promettent de grandes mutations pour les années à venir, Jacques Testard ?
Oui, je voudrais juste corriger que j'ai un co-auteur, une co-auteure.
C'est vrai, Agnès Rousseau,
une journaliste.
Vous avez bien raison.
La question c'est...
Est-ce que vous partez du même point de départ sur le fait que de grandes mutations risquent d'arriver dans les prochaines décennies ?
Sans aucun doute.
Oui. Vous développez pas plus quel type de...
Ah oui, je peux développer des grandes mutations qui sont absolument hors contrôle, qui sont en fait sous l'emprise des marchés économiques, et puis aussi des pulsions des individus qui sont assez fascinés par toutes sortes de gadgets, et que tout ça ensemble, ça fait qu'effectivement, la technoscience telle qu'on la voit avancer là, a de l'avenir.
Ouais. Marc Roux, sur l'idée que de grandes mutations...
Je vais faire la même précision, j'ai un co-auteur aussi, Didier Cornel, vice-président de l'association, qui est autant l'auteur de cet ouvrage que moi-même. Oui, donc effectivement, le point de départ est le même. Que tout ne soit pas sous contrôle, ça me paraît une évidence. Je pense qu'aucun développement ni technique ni technologique n'est jamais entièrement sous contrôle. Le risque zéro n'existe pas. Mais en échange, ce qui me semble important, c'est de savoir ce qui pose problème s'il y a perte de contrôle. Est-ce que c'est le transhumanisme qui est problématique ou est-ce que c'est le contexte dans lequel il se développe.
Alors, le projet transhumaniste, c'est d'utiliser les sciences, la technologie pour permettre aux humains de se dépasser, d'accéder à une sorte d'humanité transcendée, de nouveaux êtres que l'on pourrait qualifier de post-humains qui verraient le jour. Faites-nous, pour être un peu concret, faites-nous le portrait robot de ce post-humain tel que, alors peut-être vous, Marc Roux, tel que vous le rêvez, ce post-humain.
Écoutez, ça va vous déplaire, peut-être ma réponse, mais parce qu'elle va manquer de précision. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ce soit le résultat des choix des personnes. Et donc, ça n'est pas moi, ni aucun transhumaniste. Et d'ailleurs, c'est faire tort aux transhumanistes de leur faire dire qu'ils veulent tel ou tel transhumain. Ils n'en veulent aucun, ils les veulent tous. Ils veulent l'ensemble des choix possibles. Ils veulent ouvrir l'horizon des choix possibles par la technique.
Bon, alors, je vais essayer quand même de vous faire préciser. préciser les choses, parce que là, on l'ouvre un peu, me semble-t-il. Jacques Testard, comment ce postulat?
Ils veulent tous les choix possibles, mais à condition que ce soit des choix transhumanistes. C'est-à-dire, ils veulent sortir de l'humanité. Bah, si, quand même, tous les choix, je vois pas que les transhumanistes proposent l'écologie, par exemple.
Vous vous trompez.
Pas du tout, non. D'ailleurs, dans votre bouquin, vous dites bien que vous êtes pour les OGM, pour le nucléaire, pour les nanotechnologies.
Pas dans n'importe quelle condition.
C'est-à-dire pour toutes, mais il n'y a pas de conditions. Les conditions, c'est le marché international du néolibéralisme. C'est ça qui pilote le monde. Vous inscrivez dedans et vous faites croire qu'on peut, là-dedans, arriver à moduler pour avoir une espèce de développement doux, intelligent. Pas du tout.
Vous ne rêvez pas de notre monde que celui du néolibéralisme dans lequel nous sommes?
Pardon?
Vous ne rêvez pas vous-même d'un autre monde que celui... Donc, imaginer un autre monde,
pourquoi pas un autre transhumanisme? En même temps, il faut refuser... Mais le transhumanisme est complètement construit sur le développement du progrès, de la croissance, de la production sans arrêt d'objets nouveaux.
C'est le néolibéralisme que vous êtes en train de présenter, ou le capitalisme, et pas le transhumanisme. Le transhumanisme parle d'une évolution des sciences, d'une évolution des techniques, de l'application de ces techniques à la biologie de l'humain, pas forcément du consumérisme.
Mais vous savez bien qu'il n'y aurait pas eu la Silicon Valley, toutes les recherches qui sont extraordinaires actuellement et qui nous proposent des techniques transhumanistes, s'il n'y avait pas derrière les GAFA, Google, Apple, machin, l'armée américaine, bon, un tas de gens qui ne sont pas vraiment du côté de la démocratie.
Alors, on reprendra cette discussion, si vous le voulez bien, effectivement, sur la philosophie et peut-être les idéologies qu'il y a derrière. Mais j'aimerais qu'on commence par des exemples très concrets. Il y a cette idée de l'homme réparé qui, à l'avenir, pourrait devenir l'homme augmenté. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, Jacques Testard, aujourd'hui, des organes artificiels, le cœur artificiel, on y est presque, des tentatives sont faites, on sent qu'on va y arriver, des reins artificiels. Là, on est plutôt pour essayer de pallier des manques pour...
Oui, on n'est pas là dans le transhumanisme. Mais effectivement, on prépare la suite. Et un transhumaniste comme Laurent Alexandre, qu'on voit beaucoup dans les médias, dit assez justement que si on est capable d'augmenter la vue d'un aveugle au-delà de la vue d'une personne normale, on ne voit pas pourquoi, après, on priverait les personnes normales d'accéder aux mêmes bienfaits.
Alors ça, c'est un exemple très concret. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur des rétines artificielles pour redonner la vue ou un semblant de vue à des personnes aveugles. Mais c'est vrai que ces rétines, ces capteurs, pourraient aussi voir, par exemple, dans l'infrarouge. Et on donne, dans ce cas-là, à un être humain, la vision nocturne. Et on voit la frontière entre... réparer l'homme, et pourquoi pas en profiter maintenant qu'on maîtrise la technologie pour l'augmenter. C'est ce qui vous inquiète.
La frontière est très ténue. Bon, il y a d'autres techniques qui sont carrément transhumanistes dès le départ. Mais effectivement, ces améliorations, le transhumanisme qui s'inscrit dans la médecine, il n'est pas transhumanisme au début. Il le devient progressivement parce qu'on peut étendre les techniques qu'on a pu utiliser sur des gens qui en avaient besoin pour vivre normalement, on peut l'étendre à d'autres personnes.
Oui. Marc Roux, sur cet exemple très, très pressant, ça vous gêne cette idée qu'il y a une frontière entre l'augmenter, le réparer? Est-ce que ça vous choque l'idée qu'un homme pourra voir dans l'infrarouge un jour, par exemple?
Alors, ça ne nous choque pas. Nous souhaitons que ce soit possible pour ceux qui le demandent et que ceux qui ne le veulent pas, effectivement, ne le choisissent pas. On peut donner quelques autres exemples, si vous voulez, des exemples concrets. Oui. Par exemple, avec les implants cochléaires qu'on utilise aujourd'hui pour redonner un début d'audition aux personnes sourdes, eh bien, on peut faire opérer un réglage pour capter les ultrasons, où on a déjà aujourd'hui des prothèses qu'on appelle, un mot un peu barbare, biomécatroniques, qui remplacent tout un membre, tout un bras, poignet, main, etc. Auxquelles aujourd'hui, mais depuis pas longtemps d'ailleurs, depuis 5-6 ans, on a vu les premières prothèses de membres supérieurs dont le poignet peut tourner indéfiniment sur lui-même, à plus de 360 degrés.
Donc là, on est clairement dans l'homme augmenté.
Voilà, c'est intéressant d'ailleurs de constater que les équipes médicales et techniques, il y a 10 ans, quand elles développaient les premiers modèles de ces prothèses, là, systématiquement bloquer le poignet à la rotation à peu près naturelle de 180 degrés. Et il y a eu une première en Autriche il y a quelques années. Et depuis, tout le monde donne une rotation indéfinie au poignet. Comme quoi, l'idée de frontière, en fait, l'idée de dépasser ces limites, eh bien, elle est, il me semble, toujours arbitraire. C'est toujours une équipe, à un moment donné, un groupe qui va le faire quand la maintient ou quand la dépasse.
Alors, nos sociétés sont-elles en voie de cyborgisation? Certaines initiatives semblent vouloir nous préparer à cette éventualité, comme les Jeux Olympiques pour cyborgs qui se sont tenus à Zurich en 2016.
Le cybathlon est une nouvelle compétition qui permet aux personnes handicapées moteurs de participer à des courses en utilisant des technologies robotiques. Ils peuvent utiliser n'importe quelle technologie pour améliorer leur performance et leur vie quotidienne. Il y a 6 différents types de disciplines ou courses. On a par exemple une course de fauteuil roulant où les participants sont autorisés à motoriser leur fauteuil. On a également une course d'exosquelette avec des prothèses de jambes et de bras et une course à vélo électrostimulant. Nous promouvons le développement des technologies de la vie quotidienne. C'est pourquoi nous avons développé des pistes de course qui sont adaptées à la vie quotidienne, comme ouvrir une porte, monter les escaliers ou des rampes, préparer des petits déjeuners avec des prothèses de bras, porter des sacs et des cartons. Ce sont des tâches importantes de la vie quotidienne. De cette façon, nous promouvons le développement d'équipements utiles dans la vie de tous les jours.
Alors c'était Robert Riener qui est professeur à l'Institut de robotique à Zurich et qui porte cet événement, ces Jeux olympiques pour cyborgs. Hein. Il ne s'agit pas des Jeux paralympiques, là vraiment ce sont des athlètes, on l'a compris, ultra équipés avec ensuite une équipe de chercheurs qui règle les machines. Quel regard, vous en parlez hein, dans votre ouvrage Jacques Testard, quel regard vous portez? Est-ce qu'on est en train de...
C'est le comble de la compétition, c'est-à-dire que... Là, c'est pour des cyborgs, mais pour les handicapés, c'est le même principe. Hein. C'est de dire que finalement, on est là pour se battre. Chacun doit se battre contre tout le monde. Et donc, il n'y a pas de raison qu'un handicapé ne puisse pas se battre comme tout le monde. Mmh. Alors, ça paraît très noble, mais en même temps, ça réduit le potentiel qu'on pourrait avoir de sympathie, d'aide, de convivialité avec des gens qui sont en difficulté, puisqu'ils n'ont qu'à se battre, se débrouiller, avoir des prothèses, et puis ça marchera bien pour eux. Mmh. Et puis, c'est aussi le terrain d'expérimentation, comme on fait en laboratoire avec les rats, là c'est fait avec des handicapés, oui. Le terrain d'expérimentation, de techniques nouvelles, de drogues, qui sont pas contrôlées, puisque c'est, par définition, ces gens-là sont obligés d'avoir des moyens artificiels.
Mmh. Marc Roux, ce genre d'événement, ça préfigure de ce qui nous attend, comment vous les percevez, vous ?
Bon, vers quoi on ira, c'est difficile de savoir. Je pense important d'abord de ne pas perdre de vue que pour les organisateurs de cette manifestation, l'objectif premier est en effet de faire parler des efforts qu'ils sont en train de mener pour développer ces techniques et qui sont d'abord des techniques en effet de soins par rapport à des personnes handicapées. Mm-hmm. Je pense que, Vance Bergeron par exemple qui participait pour le NES de Lyon à cette manifestation-là, ça le choquera peut-être un petit peu qu'on le considère comme un rat de laboratoire. Et je pense qu'aucun des participants ne a vécu cela de cette manière. Ils sont tous absolument volontaires et souvent enthousiastes. Ils y voient d'énormes espoirs.
Une des grandes quêtes du transhumanisme, c'est l'immortalité. Nous allons en parler dans un instant pour adresser vos questions à nos invités. Il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. What's happened to our home? We live amongst the rockets. Rockets I used to own. Underneath the dome, land in a playground. Oh, I'm pleased, Lord save my soul. Forgive me for my role. Change our target.
neighbor live next to each other. We don't get along, we don't get along. Don't wait for a savior, just be a good neighbor. You can come along before.
Neighborhood, c'était Her sur France Inter.
Les manifestations de troubles visuels, d'hallucinations auditives et même d'amnésie passagère sont normales. Ne vous inquiétez pas. Ce disque est une pile corticale. Le protectorat en accorde une à chacun de ses citoyens. Elle est implantée en nous à l'âge de 1 an. Nos sentiments, nos pensées, notre personnalité sont codés et bénéficient du THD, transport d'humains digitalisé. Ça signifie que votre conscience peut être transférée sur n'importe quelle pile et dans n'importe quel corps. Les enveloppes sont remplaçables, mais si votre pile est détruite, au revoir. Il n'y a pas de retour possible de la vraie mort. Alors, évitez de prendre des coups dans la région cervicale et tâchez de ne pas vous faire tirer dans la tête.
Extrait de la série Altered Carbon, ce que la science-fiction deviendra. Est-ce que la science-fiction deviendra réalité? Pas impossible si l'on en croit les transhumanistes. Aujourd'hui, en faisant converger les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et les sciences cognitives, nous serions en passe de transformer radicalement l'humain. Pour en parler, autour de la table, Jacques Testard, biologiste, Marc Roux, président de l'association française Transhumaniste. Les transhumanistes prétendent ont-ils repoussé les limites de la mort ? Marc Roux.
Les limites de la mort, sans doute, mais c'est très très différent de dire qu'ils prétendraient à une immortalité.
Certains ont quand même employé cette formule, la mort de la mort.
Hein. Absolument.
On défie tout là.
Tout à fait, mais il faut lire un petit peu entre les lignes, il faut vérifier qu'est-ce qu'ils proposent concrètement, il faut se rappeler que ce sont des matérialistes philosophiquement parlant, et donc que ce serait une parfaite contradiction que d'employer ce terme là dans son sens complètement métaphysique. Mmh. Immortalité, c'est un terme de la métaphysique. Et donc ce dont il est question, c'est d'amortalité. Ça veut dire suppression ou enfin quasi-suppression de la maladie et du vieillissement, ce qui est déjà énorme.
Et quand ils prétendent que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, on nage en plein délire, en plein fantasme, ou ça vous semble réaliste?
C'est le résultat d'une statistique. C'est-à-dire que si au jour d'aujourd'hui, vous supprimez toutes les causes de maladie, de décès, donc par maladie ou vieillissement, et que donc vous ne gardez que la mortalité accidentelle, meurtre, suicide, etc., accident de la route, enfin, et que vous faites un calcul statistique, vous arrivez approximativement à ce nombre-là. Donc, c'est évidemment... Après 1000, c'est un nombre symbolique. Hein.
Bon, même 500, ça paraît mais assez énorme. Voilà, hein. Si vous me dites l'homme qui vivra 500 ans est déjà né, j'ai
tout
quand même
fait.
Du
même
mal
300,
à vous croire, Jacques Testard. Oui, le biologiste que vous êtes, qu'est-ce que vous en pensez?
Le calcul me semble un peu dérisoire. Je vois pas comment on peut arriver à dire 1000 ans plutôt que 200 ou 10 000. Bon, ça va pas, simplement, ce que vous voulez, c'est prolonger la vie au maximum. Et ça, je voudrais faire remarquer quand même que ça arrive à un moment de notre histoire où l'espérance de vie diminue. Elle a augmenté pendant très longtemps. Actuellement, elle est en train de diminuer. Je vois que vous souriez, mais c'est les
statistiques américaines. Je ne saurais pas, je vais vous dire les statistiques jusqu'en
France. L'espérance de vie en bonne santé diminue, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc, à cause de problèmes d'environnement, mais l'environnement, vous vous en foutez complètement. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter avec les perturbateurs endocriniens, tous les produits chimiques qu'on met dans la nature, les OGM et tout ça. C'est pas un problème. Alors, il me semble que il faudrait focaliser sur ce qui fait qu'on a des difficultés, qu'il y a des maladies chroniques et c'est très grave et ça augmente très vite, plutôt que de faire rêver sur des hypothèses un peu fantasques qu'on va vivre des centaines d'années.
Marc Roux, c'est vrai qu'entre les problèmes qui sont abordés là, les perturbateurs endocriniens, nous laissent pas entrevoir cette humanité rêvée dont parlent les transhumanistes.
Alors, je suis parfaitement d'accord, et en tout cas, une part des transhumanistes au moins sont très attentifs à la question de l'écologisme en général, la condition environnementale en fait. Et effectivement, si nous bousillons notre planète autour de nous, il n'y aura pas de transhumanisme qui compte. Donc effectivement, mais pourquoi est-ce que l'un serait absolument contradictoire de l'autre? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas à la fois se débarrasser des perturbateurs endocriniens,
par exemple, l'énergie nucléaire aussi?
Mais oui, absolument. Mais à titre personnel, je ne suis pas défenseur de l'énergie nucléaire.
C'est écrit dans votre livre, hein. Je suis désolé.
Oui, mais attends, voyons qu'est-ce qui est concrètement possible et à quelle vitesse. Est-ce qu'un pays comme la France peut se débarrasser de l'énergie nucléaire du jour au lendemain?
Absolument.
Mais j'ai un peu peur qu'on mélange tous les sujets. Oui. Vous voulez pas qu'on reste sur le transhumanisme dans le temps que l'on a pour cette émission?
Bien sûr, mais donc il est nécessaire de ne pas confondre donc le problème du contexte du développement du transhumanisme, c'est-à-dire cette sollicité dans laquelle nous vivons, les problèmes les problèmes environnementaux, les problèmes de pollution, par exemple, ils ne sont pas apparus avec le transhumanisme, que je sache. Donc, nous proposons, je vous propose, Monsieur Testard, d'essayer de réfléchir à un transhumanisme qui se développerait dans l'environnement dont vous rêvez vous-même. Et vous vous rendrez compte que quantité de choses deviennent pensables.
Mais c'est aberrant, c'est impossible, puisque le transhumanisme ne se développe qu'avec les moyens que lui donne le capitalisme international. Comment voulez-vous qu'il se développe dans une société où on pourrait s'épanouir?
Aujourd'hui, il se développe dans cette société-là. Il pourrait très bien, je veux dire, pour faire progresser la médecine, pour faire progresser la science, il n'y a pas forcément besoin de la techno-industrie que nous connaissons aujourd'hui. Simplement, sans doute que ces techniques-là se développeraient bien plus lentement. Mais sur le fond, il n'y aurait pas de changement.
Il y a quand même un autre aspect qu'il faut évoquer, quand bien même j'y crois absolument pas, et on pourrait le démontrer, c'est impossible qu'il y ait une possibilité de vivre en harmonie dans une société où on serait égaux et où on développerait des techniques transhumanistes qui coûtent la peau des fesses, hein, faut quand même le reconnaître. Mais en dehors de ça même, est-ce qu'on a intérêt à avoir toutes ces qualités qui ne font pas partie de l'espèce Homo sapiens et que nous promettent les transhumanistes? Est-ce que ça a un intérêt pour l'épanouissement des gens? Est-ce qu'ils vivront plus heureux avec ça? Je ne le crois pas.
Est-ce que ça a un intérêt d'avoir 5 sens plutôt que 4? C'est une réponse à un moment donné à une situation, une adaptation, et puis ça se fait par test. C'est-à-dire que le vivant, de manière aléatoire, produit parfois de nouveaux sens, et ces sens sont conservés ou pas conservés. Il y a des gens aujourd'hui qui sont intéressés par la possibilité, par exemple, de tester le fait d'entendre les ultrasons. On leur répond, mais ça sert à rien. Ou par exemple, tiens, un exemple encore plus concret, de percevoir le rayonnement électromagnétique, le nord magnétique.
Une boussole intégrée.
Voilà, et que ça existe aujourd'hui. Hein, et il y a une société qui s'appelle NorthSense qui vend ces petits implants qui se placent par exemple sur la poitrine et qui permet, qui vibre chaque fois qu'on passe devant dans l'alignement du nord. Ça ne sert à rien, évidemment. Mais est-ce que ça servira toujours à rien? Personne ne peut le savoir. Deux, est-ce que ça dérange la société d'aucune manière? Je ne vois pas. Et trois, s'il y a des personnes qui sont volontaires pour ça, pourquoi le leur interdire?
Alors elle est là la question. Alors, est-ce que ça dérange la société que l'on fasse ces expérimentations?
Vous oubliez complètement la complexité du vivant. Vous êtes dans un système simpliste, alors qu'on sait bien que le cerveau ou que le génome, chaque fois qu'on appuie d'un côté, il y a un retentissement ailleurs. Donc si vous avez un cinquième sens, peut-être que un ou tous les autres vont être amoindri. Donc il faut prendre en compte tout ça. On ne peut pas jouer avec ça avant d'avoir tout compris. Et on est loin d'avoir tout compris.
Donc vous leur reprochez de jouer aux apprentis sorciers?
Complètement. Et alors, vous me demandez si je pense que...
Parce que l'idée, c'est, ça pourra peut-être servir et finalement, ça ne dérange personne d'essayer.
Alors ça, c'est pas vrai. Moi, écoutez, ça fait 15 ans que je me bats contre le téléphone portable pour un tas de raisons, en particulier convivial. À mon âge, c'est pas les problèmes de santé, bien que ça existe pour ceux qui s'en servent beaucoup. Mais je trouve que quand on voit tous ces zombies dans le métro, chacun sur son téléphone et ne parlant à personne, ou au restaurant ou ailleurs, je me suis battu contre ça, mais maintenant je me fais tellement engueuler que je viens de me mettre au téléphone portable avec un service minimum, mais quand même...
C'est qu'on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, on n'a pas le choix.
On nous impose cette prothèse. Pour moi, c'est la première prothèse qui est généralisée et permanente. Les gens dorment avec le téléphone sous l'oreiller, ainsi de suite. C'est quelque chose, à mon avis, qui change complètement les rapports entre les individus.
Marc Roux, c'est une illusion qu'on pourra toujours choisir.
Les pressions sociales, les pressions économiques sont fortes et parfois terriblement fortes et elles restreignent nos choix. Donc notre sentiment de liberté est en bonne partie faussé. Mais de là à dire que en fait toute notre liberté est illusoire et que nous ne sommes plus que des zombies, excusez-moi, moi je le ressens comme quelque chose d'assez méprisant. Et ça me dérange, je suis un petit peu désolé de vous entendre écrire et répéter cette chose-là. Je pense que les gens restent par-dessus tout libres. Et vous avez été libre, vous avez votre liberté. Même dans une société comme la société américaine, vous avez des régions dans lesquelles vous avez des Amish qui sont en train de se développer. Ils sont de plus en plus nombreux, les Amish. Et donc, ils ont refusé les technologies depuis le XVIIe siècle. Voilà, ils sont très 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 nombreux, ça embête personne et on ne les embête pas.
Jusqu'où l'humain pourrait agir sur l'évolution de son espèce? On en parle dans la suite de cette Tête au carré sur France Inter.
C'est avec ou sans prétexte, on célèbre, on m'appelle les bâtards qui m'aiment pas se forcent. J'ai juré, j'écoute rien, mais je sais lire sur les lèvres. Et j'ai lu en deux mots.
Un connard et un mec bien dans le même corps, un panneau frérot et un flingue dans le même coffre. Je ferai tout pour qu'on m'aime comme un ami, un amant, une idole ou un épicier ouvert à 5h du mat. Je n'abandonne jamais, si je suis toujours vivant, c'est que je suis le vainqueur du match. Je veux un monde avec que des miroirs, une radio qui passe que ma musique. Vous avez besoin d'un sauveur, mais moi je veux que m'amuser. J'étais déjà bien égocentrique quand j'avais 10 balles et de moins. Ça vous dit pas d'être un peu plus stylé? J'en ai marre de parler de moi. Ah.
Quand le malheur des autres se crée, quel est le secret que les hommes heureux gardent? Maman m'a dit faut se faire discret. Mais c'est tellement mieux quand on me regarde. C'est tellement mieux quand on me regarde. Laissez-moi faire ce que je veux.
Ou bien je risque de le faire illégalement, j'ai pas pris mes calmants. Hey, je dis que de la merde et tous les jokes kiffent. Mon hyperactivité ne fait que choquer. Depuis les signes chinois sur le jogging, ça vient de mes cellules comme un disque jockey. Je sais dire je t'aime et je te baise en plein de langues. Influencé par le monde entier dans mes disques, on se mélange et je vois des gens qui m'aident. Inch'Allah bientôt on est tous métis. Suis-moi si tu veux voir des monstres gentils. On n'a pas le nez vert, ton kebab est pas bleu, mais on y a caché quelques champis. Alors fais la fête avec nous. Les caries diraient comme, comme, comme. Que du love jusqu'à la mort. Le nirvana dans le corps comme Kobe. Ce monde en main, faut de la drogue, ça t'assomme en rend le monde en main. Si les chefs de ce monde fumaient de la queue seconde, toutes les guerres s'arrêteraient en deux secondes.
Montre en main.
BTW, la politique, pas sucer mon gros doigt. Je suis différent même des gens que je côtoie. Tu pensais quand même pas que j'étais comme toi. T'es obsédé par le liquide, mais t'es pas en go. Me sors pas les mêmes conneries que tes parents gobe. T'es défoncé, tu repars en gove. Mélange de pilules et de whisky, miskin, tu vas finir comme Octave Parango.
Pal Pal, c'était l'homme pâle sur France Inter.
La tête au carré. Daniel Fievé.
Les ovules qu'on vous a prélevés ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre
nous
de choses.
Nous ne voulons pas qu'il ait...
Nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard.
Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous.
Invité de, c'était un extrait de Bienvenue à Gattaca, invité de la tête au carré, le biologiste Jacques Testard et Marc Roux, président de l'association française transhumaniste. Ensemble, nous débattons des espoirs et des craintes que suscite le transhumanisme. Jacques Testard, si l'on suit le courant de pensée transhumaniste, arriverons-nous à une fabrication de bébés sur mesure, comme on vient de l'entendre dans l'extrait de Bienvenue à Gattaca?
Absolument, ce film était prémonitoire et on y va tout droit. Absolument, il y a des techniques d'ailleurs qu'on ne peut pas développer là parce que c'est un peu, on n'a pas beaucoup le temps. Mais chez la souris, on pourrait déjà produire des milliers d'embryons à partir d'un couple, simultanément, et sans s'embêter avec des traitements hormonaux. Donc on pourra faire la même chose chez les humains, et c'est une vraie révolution.
Ouais, on est en train de projeter une société où l'eugénisme accourt, Marc Roux.
Quand vous dites eugénisme, vous faites toute une référence à toute une histoire, celle du XXe siècle, qui fait que c'est pratique. Oui, vous avez raison. Mais au XIXe siècle, bon, on est dans les prémices, en quelque sorte, l'invention des principes. Et au XXe siècle, dans une forme d'application de ces principes, mais une forme qui a été la catastrophe que l'on connaît. Donc, il reste bien difficile de parler du mot eugénisme. Le philosophe, par exemple, Jürgen Habermas a proposé d'essayer de parler d'eugénisme libéral, pour dire en fait il est question d'un choix, chaque individu, chaque famille va pouvoir choisir quelles en sont les conséquences. Mais moi-même ce terme-là me pose problème parce que dans l'eugénisme il y a isme, c'est-à-dire en fait quelque chose de l'ordre du programme. De mon point de vue, il n'y a pas de programme. Eugène, oui d'accord, hein, on essaie de faire quelque chose de bien quoi. Mais par contre que ce soit programmé politiquement etc, en tout cas ça n'est pas du tout la perspective des transhumanistes.
Jacques Testard.
Non, le mot eugénisme a été inventé par Francis Galton à la fin du 19e, mais l'eugénisme existe aussi longtemps que l'humanité. Quand les Grecs jetaient les enfants mal foutus dans le précipice, c'était de l'eugénisme. Quand les Égyptiens faisaient des mariages entre familles princières pour éviter le mauvais sang, c'était de l'eugénisme positif. Alors il peut être positif, négatif, il peut être violent ou pas violent, il peut être autoritaire ou librement consenti. Mais c'est toujours la volonté d'améliorer l'espèce. Et c'est exactement le but des transhumanistes.
Je voudrais vous livrer les messages des auditeurs qui arrivent nombreux sur la page de l'émission. Chloé, ce qui me dérange dans le transhumanisme, c'est qu'on a beau avoir de belles intentions au départ, améliorer la vie des handicapés moteurs, au final, j'ai l'impression qu'on va tout droit vers une société encore plus inégalitaire que celle qu'elle est actuellement. Jacques Testard.
Ah bah, c'est très clair quand on voit actuellement les nouvelles médications qui existent et qui s'inscrivent pas encore dans le cœur artificiel, le cœur Karma par exemple, ça coûte je crois 250 000 euros. Bon, on voit pas comment la sécurité sociale pourra couvrir ça, c'est impossible. Et on voit pas comment les gens pourront le payer, sauf quelques personnes. Et les fameuses thérapies géniques dont on nous parle depuis 30 ans, il y en a quelques-unes qui marchent un peu. Elles coûtent entre 500 000 et 1 million de dollars.
Ouais. Vous rejoignez Stéphane hein, qui enfonce le clou en quelque sorte. Le transhumanisme est d'abord un terme trompeur car l'humanité entière ne profitera pas de ce fantasme technologique, il faut être honnête. A-t-on résolu entièrement le problème de la faim dans le monde malgré les moyens de le faire? A-t-on résolu un tas de nos problèmes qui sont avant tout sociaux? Marc Roux.
Le problème, c'est qu'une fois de plus, enfin, on oublie que la manière d'utiliser la technique ou la technologie par le pouvoir, elle a toujours été celle-là. C'est-à-dire qu'au départ, le pouvoir existant utilise la technique et la technologie pour ses propres desseins, et cela a pour conséquence, bien souvent, d'aggraver ou de conforter certaines inégalités. Donc certes, mais ça n'est pas propre, encore une fois, au transhumanisme. Et donc, la question qui est derrière, c'est la question politique. Qu'est-ce que nous faisons avec notre société? Si nous ne sommes pas capables de changer quoi que ce soit dans notre société, oui, nous aurons le pire des transhumanismes. Mais ce que les transhumanistes, notamment l'association française, se revendiquent, les technoprogressistes, ce qu'ils proposent, c'est évidemment d'inventer une autre société en même temps que notre transhumanisme. Et donc, ça n'est pas le transhumanisme qui est à condamner en premier lieu.
Pourquoi craindre, vous demande Philippe, que sont autre chose les lunettes de vue, les prothèses dentaires pour les plus largement partagées que des... Alors bon, j'ai du mal à comprendre tout ça, mais son idée c'est que on est déjà avec les prothèses dentaires, avec les lunettes, dans une sorte d'amélioration de l'homme.
Pas du tout. Une sorte d'amélioration des gens déficients, des gens qui ont eu un problème et chez qui on essaie de restituer ce qu'on appelle une normalité. Ça n'a rien à voir avec le transhumanisme.
Donc on passe un cap avec le transhumanisme.
Que dites-vous de la vaccination? Est-ce que les gens qui naissent non vaccinés sont des personnes qui souffrent d'une déficience à l'origine? Pourtant, après avoir donc fait ces rappels, notre système immunitaire peut être transformé de manière définitive et irréversible.
On institue plus une normalité qui n'a pas de, d'effet immédiat, mais qui virtuellement va permettre aux gens de rester en santé normale. On ne leur donne pas une propriété particulière.
Bah, celle de résister à tout un ensemble de maladies qui n'est pas inscrite dans leur nature.
C'est le but
nature.
De la médecine.
Mais cette médecine-là pousse le bouchon un petit peu loin, non, puisqu'elle améliore nos capacités de résistance. Et il me semble que la vaccination est un parfait exemple de technologie transhumaniste bien assimilée et depuis maintenant longtemps.
Dans quelle mesure on risque de transformer définitivement l'évolution de l'homme et finalement arriver à une humanité, une post-humanité, avec un point de non-retour ?
L'humain n'est pas quelque chose de fixe, il ne l'a jamais été.
Sauf qu'il n'a jamais à ce point influé sur le cours de son évolution.
Et il ne l'a jamais fait de manière aussi rapide. Nous avons quand même déjà modifié notre mâchoire, nous avons modifié notre pelage par des techniques. Simplement, ça n'était pas évidemment le but de modifier, de perdre notre pilosité en mettant des habits. Le but, c'était d'avoir chaud. Mais ce qui est donc différent, c'est le fait que nous soyons conscients, que nous agissons donc en toute responsabilité, où nous devons le faire, et surtout, en même temps, que nous pouvons le faire de manière rapide. Mais ça, c'est un problème et moi, je retourne la question vers les transhumanistes à ce sujet, à savoir que si nous ne prenons pas le temps d'expérimenter, de tester, de prendre des précautions, oui, monsieur Testard, de prendre des précautions, eh bien, en effet, nous pouvons faire courir des risques tout à fait considérables.
Vous allez presque
ça n'est pas contradictoire
vous rejoindre sur cette fin, Jacques Testard.
Je trouve que Technoprog, avec qui j'ai déjà débattu, ils sont, soit ils se moquent de moi, ou de nous, soit ils sont d'une grande naïveté. Comme si le système qui actuellement est en train de fabriquer un tas de gadgets pour les vendre et faire du fric, et tout ce qui se développe dans la Silicon Valley, mais aussi en Europe et en France, c'est fait pour ça, comme si ça pouvait s'accommoder de la lenteur. Non, il faut aller de plus en plus vite. Il y a la compétition internationale aussi.
Vous avez raison, ce système-là, oui. Mais donc, vous pensez qu'il n'y a rien à faire ? Il faut baisser les bras ?
Faisons déjà la révolution, puis après, on demandera aux gens ce qu'ils pensent.
Les deux peuvent aller de pair.
Et arrêtons tous les développements que vous préconisez, je reviens là-dessus quand même, me dites pas que les OGM, c'est quelque chose qui est favorable à l'humanité. C'est favorable seulement aux industriels qui les vendent.
Allez, on vous mettra pas d'accord, c'était pas le but, c'était l'idée de faire réfléchir nos auditeurs qui pourront prolonger la réflexion en lisant vos livres. Jacques Testard, votre livre coécrit avec Agnès Rousseau s'intitule « Au péril de l'humain » aux éditions du Seuil. Marc Roux, vous publiez avec Didier Kernel « Technoprog » aux éditions FIP. Merci à tous les deux. Et maintenant, on a rendez-vous chez le médecin.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Daniel.
Alors c'est quoi cette histoire de virginité grippale ?
Alors c'est une histoire passionnante Daniel. On commence à mieux comprendre pourquoi lors des épidémies de grippe, certaines classes d'âge sont mieux protégées que d'autres et ça semble lié au virus qui nous a infectés pour la première fois, qui nous a fait perdre notre virginité grippale. Alors ça se passe bien sûr le plus souvent pendant les premières années de notre vie. Daniel, vous n'étiez pas né je pense en 1957, mais savez-vous ce qui a marqué cette année ?
Alors en 1957, le lancement du premier Spoutnik,
oui,
mais je suis pas sûr
vrai,
que c'est
en 57, mais moi je vous parle sur le plan sanitaire, eh bien 57, c'est l'année de la grippe asiatique, la pandémie grippale meurtrière liée au virus A de classe H2N2 qui succédait au H1N1.
Celui de la grippe espagnole.
Exactement, ce méchant virus H1N1 qui a fait des dizaines de millions de victimes en 1918 et dont un cousin est revenu en 2009 en causant finalement peu de décès. Et pourquoi peu de décès ? Eh bien parce que les vieux, qui sont les principales victimes de la grippe, ont résisté à ce nouveau virus H1N1. Alors on avait attribué ce paradoxe au fait qu'ils avaient connu la grippe de 1918 et gardait donc des anticorps quasiment un siècle après. J'avais trouvé cette explication un peu rapide. Or, deux publications, dont la plus récente date de janvier, apportent des éléments d'explication.
Et alors, elles permettent de lever le mystère ?
En partie seulement. Une équipe canadienne a passé en revue les décès de 2009 et a constaté une proportion anormale de sujets nés en 1957.
L'année de la grippe asiatique.
Et de son virus H2N2. Et en fait, les gens dont le premier contact avec la grippe dans la petite enfance était due au virus asiatique H2N2, on réagit beaucoup plus violemment au virus H1N1. Alors au contraire, les gens nés avant 1957 avaient été marqués par le virus H1N1 de 1918, cousin du virus de 2009. En fait, ce qui a protégé ces vieux, c'est d'avoir fait leur première grippe avec un virus H1N1. Donc, c'est le fait d'avoir perdu sa virginité grippale avec le virus H2N2 à partir de 1957 qui a constitué un facteur de mortalité important face au virus H1N1 de 2009. Et l'équipe du docteur Gagnon rappelle que la grippe de 1918 a touché massivement et bizarrement de jeunes adultes dans la force de l'âge. Eh bien, il y a eu en 1890, 28 ans avant la grippe espagnole, une épidémie due à un virus H3N quelque chose, on n'en sait pas plus, c'est vieux. Ce virus H3 aurait de la même façon marqué cette génération et du coup l'aurait rendu vulnérable au H1N1 espagnol de 1918. Alors bref, on commence à mieux comprendre l'immunité antigrippale, à découvrir des éléments fondamentaux qui laissent espérer des progrès face à cette redoutable maladie. Mais pour l'instant, nous sommes désarmés. Les antiviraux, l'équivalent des antibiotiques, mais pour les virus, marchent mal. Le vaccin est peu efficace, on ne sait toujours pas s'il sauve des vies et son impact à long terme n'a jamais vraiment été étudié. Alors j'espère que l'évolution de nos connaissances permettra de mieux évaluer et d'améliorer les stratégies antigrippales actuelles qui paraissent encore très empiriques.
Alors on l'espère avec vous, Dominique Dupagne. Les références de ces études sont à retrouver sur la page de votre chronique Santé polémique sur franceinter.fr. Merci Dominique et à la semaine prochaine.
À la prochaine.